Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Soyez les bienvenus sur Europe 1 jusqu'à 11h si vous nous rejoignez. Nous vous proposons avec Julie un voyage au centre de nos cerveaux. Nous avons tous la même base initiale, mais pas un de nos cerveaux ne fonctionne de la même manière. Les chercheurs en neurosciences font des découvertes en la matière quasiment tous les jours et deux d'entre eux sont avec nous ce matin. L'un a particulièrement travaillé sur le cerveau des enfants. Que faire pour qu'il soit d'ailleurs le plus heureux et le plus épanoui à chaque âge? Il s'adresse à nous dans un livre passionnant. L'autre démontre que le cerveau masculin n'est pas construit de la même manière que son alter ego féminin, ce qui remet en question un certain nombre de pensées aussi culturelles et sociales. Et là encore, c'est passionnant. Tout viendrait donc de notre cerveau qui n'est pas vierge à la naissance et qui continue d'évoluer tout au long de notre existence. Il ne cesse de nous surprendre. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nous avons deux experts en studio. Julie, on vous attend.
On vous attend au 39 21 50 centimes la minute.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et les voici les hommes de la situation. Erwan Deves qui est avec nous, auteur, conférencier, consultant en neurosciences. Bonjour.
Bonjour Wendy, bonjour
vous
à tous.
Vous publiez 24 heures dans le cerveau de votre enfant aux éditions Larousse et on va pénétrer dans ces mystères avec vous. Jacques Balthazar, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes neuro-endocrinologue, chercheur émérite au sein du groupe de recherche en neuro-endocrinologie du comportement. C'est à Liège. Quand le cerveau devient masculin, voici le livre que vous publiez chez Humaine Science. Vous vous intéressez évidemment à ce mécanisme incroyable, à la plasticité de notre cerveau. On a fait déjà deux émissions ensemble, Julie, mais on ne cesse d'en apprendre sur le cerveau. Vous aimeriez par exemple, Erwan, qu'on diffuse ce savoir dans les écoles avec des cours de cerveau aussi dans les entreprises d'ailleurs.
Oui, c'est absolument essentiel parce que, en fait, il faut partir du début. C'est-à-dire que les neurosciences, ça fait un peu peur à tout le monde. Moi, quand je dis que je travaille sur les neurosciences, la première réaction, c'est les gens me disent « Oh là là, ça doit être très compliqué
oui. ».
Et c'est comme si finalement, ça les concernait, mais de très très loin. Alors que non, c'est quoi les neurosciences? C'est comment vous vivez, comment vous aimez, comment vous partagez, comment vous travaillez. Donc c'est votre vie, c'est très concret. Donc il faut s'en emparer, il faut absolument que le grand public s'empare des neurosciences. Et pour une raison encore plus importante, c'est que nous avons une réelle capacité d'action sur notre cerveau. Donc il faut l'utiliser à l'école, dans l'entreprise et partout dans la société.
Et vous entrez dans le ventre de la maman en nous disant que dès la troisième semaine, déjà, le cerveau commence à se constituer. Et vous nous proposez aussi de suivre justement le parcours d'enfant jusqu'au stade adulte pour voir combien ce cerveau est bouillonnant. En réalité, Jacques Balthazar, tout est inscrit déjà dans le cerveau du bébé.
Alors tout est inscrit. Non, il y a des potentialités qui sont présentes et qui vont se développer en fonction des expériences que le bébé va avoir déjà in utero et puis ensuite dans sa vie postnatale évidemment. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont déjà présentes, c'est-à-dire un matériel génétique qui va conditionner un certain nombre d'aspects du développement et puis des conditions hormonales qui également vont modifier le développement de ce cerveau. Mais tout ça est en construction jusqu'à l'âge de 20-25 ans et à ce moment-là ça va commencer à se dégrader un petit peu. Mais
voilà.
on réorganise tout et on devient de plus en plus, performant avec le peu qui nous reste. Quoi.
Alors, l'impact des hormones est au cœur de votre dernier ouvrage, justement Jacques Balthazar, et l'un et l'autre, vous allez vous rejoindre là-dessus parce que c'est passionnant. Vous démontrez, ce qui n'est pas pour certains politiquement correct, mais c'est ça qui est intéressant aussi, qu'il y a des cerveaux d'hommes qui sont liés aussi à un fonctionnement hormonal et des cerveaux de femmes qui ne sont pas finalement touchés de la même manière par ces hormones.
Absolument. Donc, il y a des effets d'hormones déjà à l'âge adulte. Ça, c'est une chose que les gens connaissent à peu près bien. Ce qu'on connaît moins, c'est que dès la vie embryonnaire, la vie fœtale, il y a un pic de testostérone qui apparaît dans le deuxième trimestre de grossesse chez le mâle, chez le garçon. Donc, je dis mâle et garçon parce que c'est vrai chez les animaux. Mmh. C'est à partir des études sur des animaux qu'on connaît bien le phénomène. Et puis, mais on sait qu'il existe encore chez l'homme. Donc, il y a un pic de testostérone qui va imprégner le cerveau, imprégner tout l'organisme d'ailleurs, qui va conduire au développement du pénis chez le petit garçon. Mais ça va aussi imprégner le cerveau et modifier son fonctionnement et sa structure dans une certaine mesure. Alors, ce sont des différences qui ne sont pas des référence du tout ou rien, évidemment, c'est pas du quantitatif,
oui.
C'est du qualitatif.
Mais on va en parler dans le détail justement, oui. Ce qui est sûr, Jacques Balthazar, c'est que le cerveau, au départ, il est unisexe.
Le cerveau, il est neutre au départ, neutre il est unisexe, et oui. S'il n'y a pas d'action de la testostérone, il sera plus proche de ce qui est un cerveau féminin. Donc le sexe féminin est le sexe qui se développe en l'absence d'influence hormonale majeure.
Vous avez travaillé aussi sur ces questions pour bien pouvoir les énoncer, Erwan Devez, avec les stades si importants de développement du cerveau chez le tout petit. On parlait déjà donc de ce cerveau qui est en formation dans le ventre de la maman. Alors moi ça j'ai appris beaucoup dès la troisième semaine. Et puis ensuite, le développement cérébral de l'enfant. Vous pointez du doigt des moments très importants, notamment le sommeil dans cet ouvrage. Parce que le sommeil, c'est la clé du développement du cerveau du petit.
Alors, c'est une des clés. Effectivement, le sommeil est très important pour les tout-petits et pour nous aussi, hein, plus généralement, puisqu'il y a plusieurs processus à l'œuvre pendant le sommeil. Il y a un processus de régénération neuronale. C'est comme si vous passiez au karcher, en fait, vos cellules nerveuses. Vous avez aussi un processus de consolidation mémorielle, c'est-à-dire tous les inputs, les stimuli que vous avez reçus dans la journée vont être traités par le cerveau. Donc, effectivement, le sommeil est très important et très important dans les premières années. Ce qui est important, c'est que, la question... Là, on parlait finalement de la question de l'inné et de l'acquis. Mmh. C'est-à-dire que l'inné, nous avons des prédispositions génétiques qu'il ne faut pas nier, qui sont très importantes. Et puis ensuite, l'acquis, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans notre vie, notre environnement social, notre éducation, notre rapport à nos parents, nos professeurs, etc., va pouvoir modifier, dans un sens ou dans un autre, le cerveau et notre développement.
Et nous, on va pouvoir aider justement à prendre soin de notre cerveau. Vous allez nous aider avec cet ouvrage notamment. On parlait de l'importance du sommeil. Jacques Balthazar est quand même aussi à tous les âges de la vie. Ce qui est intéressant en travaillant sur l'enfant, c'est qu'on voit aussi quel est le fondement de ce terrain et la manière d'en prendre soin. Mais par exemple, quand on dit que la nuit porte conseil, c'est ça, c'est-à-dire que le cerveau fait son travail lorsqu'on dort aussi ?
Oui, ce n'est pas dans le cadre du livre que j'ai écrit, mais il est certain que la nuit porte conseil et la nuit consolide les mémoires. Donc la nuit renettoie le cerveau. Bon, il y a une accumulation de métabolites néfastes qui se produit pendant la journée dans le cerveau, qui sont renettoyés pendant la nuit. Et en même temps, il y a une consolidation des aspects importants de ce qu'on doit retenir de la journée qui se fait. Et si on n'a pas ce sommeil profond et une bonne qualité de sommeil, on va pas avoir toutes ces consolidations et on va pas être fonctionnel le lendemain matin. D'ailleurs, la privation de sommeil conduit à la mort au bout de 2-3 jours. Hein, donc c'est assez simple.
Vous êtes là pour nous éclairer. Jacques Balthazar, Erwan Devez, spécialiste en neurosciences et neuro-endocrinologue sur le cerveau, dont il faut connaître les différentes étapes du développement pour mieux le comprendre, justement, et vous nous éclairez jusqu'à 11h.
Balade dans le mystère de nos cerveaux ce matin. Beau programme, Wendy Bouchard.
Oui, avec Erwan Devez, auteur des 24 heures dans le cerveau de votre enfant, avec Jacques Balthazar, auteur de Quand le cerveau devient masculin. On parlait à l'instant du sommeil qui est très, très important pour le cerveau, pour consolider aussi la matière du cerveau. Ça veut dire qu'aussi la maman, la future maman, doit dormir pour infuser un petit peu ses bons réflexes au fœtus et à l'embryon et au petit bébé. Ensuite, Erwan Devez.
Alors oui, effectivement, le comportement en fait de la maman pendant la période de grossesse est absolument clé en fait sur un grand nombre de fonctions du développement de son petit. Et peut-être commençons peut-être par la base, c'est-à-dire cet amour inconditionnel. On parle souvent en fait de l'amour des parents vers leurs enfants de façon assez abstraite ou même de façon un petit peu parfois un peu poétique. Là, je vais en parler de façon neuroscientifique pour un peu m'extraire de la morale. Cet amour inconditionnel, il permet au cerveau, et en particulier aux zones préfrontales, donc ce cerveau de la raison, de maturer. Donc c'est absolument essentiel. Donc on n'est pas là dans le bien ou dans le mal, on est vraiment là dans le développement de l'enfant. C'est-à-dire que si vous privez un enfant, par exemple, de câlins, si vous vivez dans un climat un petit peu anxiogène ou de menace verbale ou physique, vous allez avoir des atrophies cérébrales au niveau du tout petit.
C'est-à-dire que la manière dont vous élevez aussi votre enfant modifie son comportement cérébral très clairement.
Totalement. Et la base, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est cette notion d'amour, cette notion d'écoute bienveillante. Alors, l'amour, c'est pas forcément laisser faire son enfant n'importe quoi. L'amour peut tout à fait vivre avec l'exigence. mais on pourra d'autant plus avoir un certain niveau d'exigence qu'on aura créé les fondations, et les fondations se créent, encore une fois, par le rapport au tout petit, des câlins, des mots choisis, tout cela, ça permet au cerveau du tout petit de se construire.
Jacques Baltazar.
Si je peux rebondir là-dessus,
bien,
cet aspect des soins parentaux est en fait quelque chose d'extrêmement ancien évolutivement, et se retrouve déjà chez les mammifères. Il y a des études très précises qui ont montré que les soins que la mère, la rate, donne à ses ratons sont différentiels chez les mâles et chez les femelles. Elle traite ses mâles et ses femelles différemment dès le premier jour de vie. Donc les soins, le rapport au nid, les léchages, etc. Et on a pu démontrer que les bonnes mères créent des enfants qui sont moins stressés, alors que les mauvaises mères créent des enfants stressés, et ça se transmet même à la génération suivante.
Incroyable.
Et on connaît les mécanismes, en fait. Ce sont des mécanismes dits épigénétiques qui vont modifier de façon permanente l'expression des gènes qui sont dans le cerveau. Dans ce cas-ci, un gène qui contrôle les réactions au stress.
Oui, mais vous dites qu'elle s'occupe donc différemment de ces femelles, de ces enfants, qu'ils soient garçons ou filles.
Garçons ou filles, oui, et c'est lié en fait à une interaction olfactive. Là, les garçons émettent une odeur, une phéromone qui est différente sous l'influence de la testostérone à nouveau. Si vous castrez ces jeunes ratons à l'âge d'un jour, la mère ne s'en occupera plus comme des garçons, mais elle s'en occupera comme des filles, et ça n'aura plus cet effet développemental. Et par contre, si vous rendez la mère anosmique, vous avez le même effet, vous perdez ce traitement différentiel, et ces mâles qui n'ont pas été soignés par leur mère de façon adéquate vont montrer à l'âge adulte des déficits de comportement sexuel, vont montrer des réactions au stress beaucoup plus importantes, etc. Donc c'est quelque chose qui est très ancien phylogénétiquement, évolutivement, et qui se retrouve bien évidemment chez l'homme, où on a un cortex beaucoup plus sophistiqué,
ouais,
où on a des réactions beaucoup plus complexes.
Vous vous rejoignez évidemment, et on va faire des allers-retours entre ce que vous délivrez comme conseil aussi et comme expertise dans ce livre, Erwan Deves, 24 heures dans le cerveau de votre enfant, et dans le vôtre, Jacques Baltazar, quand le cerveau devient masculin. Parlons notamment de ces expériences que vous avez faites, au-delà de tous les débats sur il n'existe pas de jouets pour garçons, de jouets pour filles. Ben justement, vous vous remettez un petit peu les choses au clair avec une expérience d'enfant. Vous faites la même chose chez les petits chimpanzés, mâles ou femelles. Expliquez-nous, et on va voir justement qu'au-delà du genre culturel ou social, il y a quelque chose déjà dîné dans le cerveau,
voilà,
du petit garçon,
alors,
de la petite fille.
En fait, pour préciser d'abord, ce n'est pas moi qui ai fait ces expériences, je les rapporte, j'ai fait la littérature, mais oui, c'est pas moi qui ai fait les expériences. Alors bon, tout le monde pense évidemment que le fait que les garçons jouent avec des ballons et des voitures, et que les filles jouent avec des poupées et des peluches, est lié au fait que les parents imposent,
ouais,
ça.
Dans
et
la société de consommation,
la société
très genrée.
Impose, ouais, de façon générale. Or, en fait, on se rend compte qu'il y a une partie de vrai là-dedans, bien entendu, mais ça n'explique pas tout. Alors, deux arguments permettent de soutenir cette thèse-là. D'une part, c'est qu'on a fait l'expérience avec des singes. Alors, ça a été fait, pas chez des chimpanzés, mais chez des singes un peu moins évolués. Deux espèces différentes, deux laboratoires différents, ont montré que si vous donnez des camions et des peluches à des singes et qu'on leur laisse choisir avec quoi ils vont interagir, les mâles vont préférentiellement utiliser les camions, les objets mobiles, et les femelles vont préférentiellement utiliser les peluches. Objets que ces singes n'avaient jamais vus avant le jour du test. Donc il y a quelque chose de nouveau, de biologiquement très ancien, qui fait que les mâles sont plus intéressés par ce qui bouge et les femelles plus intéressées par ce avec quoi on peut avoir un lien social, dirons-nous, entre guillemets.
D'accord.
Donc ça, c'est chez le singe. Maintenant, est-ce que ceci peut se transposer à l'homme ? On a pas mal d'arguments qui suggèrent que c'est le cas. Et on a notamment les études de ces filles qui ont été exposées à trop de testostérone ou de produits semblables pendant leur vie fœtale, parce que ils ont une mutation des glandes surrénales qu'on ne discutera pas ici. Enfin, ils ne font plus de cortisol, ils font des androgènes. Mmh. Bon, c'est pas important. Ils ont trop de testostérone pendant la vie prénatale. On s'en rend compte à la naissance parce qu'il y a des problèmes métaboliques. On corrige donc ce défaut pharmacologiquement. Et on élève ces individus comme des filles, parce que ce sont des individus XX d'un point de vue génétique, donc ce sont des filles. Et on se rend compte qu'à l'âge de 3-4 ans, ces petites filles vont préférer les jouets de garçons. Elles vont faire des dessins qui sont des dessins de type garçon, elles vont utiliser les camions, les ballons, etc. Elles vont avoir des jeux qui sont beaucoup plus agressifs que des petites filles classiques, donc elles vont aimer, quand elles se développeront, jouer au football ou au rugby plutôt que de faire de la danse classique. Mmh. Et elles choisiront d'ailleurs à l'âge adulte aussi, préférentiellement, des carrières qui sont typiquement masculines.
Sous l'influence des hormones.
Prénatales, de façon irréversible.
Eh oui, nous avons fait une émission il y a quelques semaines avec Julie sur les transgenres, donc comment la société vous étiquette fille ou garçon, mais comment vous vous sentez dans votre corps, le contraire, l'inverse du genre qu'on vous a donné. Vous vous considérez que donc cela se fait d'abord biologiquement, peut-être même dans le ventre de la maman ?
Alors, les données ne sont pas totalement claires, évidemment, parce que d'une part, ce sont des individus qui sont extrêmement rares dans la société, et d'autre part, on n'a pas de modèle animal, parce qu'on ne sait pas faire d'expérience sur l'animal et demander à un rat s'il pense être mâle ou femelle.
Bien sûr.
Mais ce qu'on sait, c'est que ces personnes qui sont donc qui sont trans ont des réactions dans leur cerveau qui sont des réactions typiques de l'autre sexe. Par exemple, quand on fait des tâches de rotation mentale qui consistent donc à tourner des objets dans sa tête pour essayer de voir avec lesquels ils sont identiques, les trans ont des rotations mentales, utilisent des zones du cerveau pour faire des rotations mentales qui sont les zones du cerveau que les femmes utilisent et qui sont différentes des zones qu'utilisent les garçons. On retrouve aussi dans le cerveau de ces individus trans, alors on en a très peu, mais des structures morphologiques qui sont du type du sexe désiré et pas du sexe biologique qui a été assigné à la naissance. Donc on pense qu'il y a quelque chose d'assez fondamental qui pourrait être lié à des différences d'imprégnation testostérone, à des différences génétiques aussi. On a pu lier ça à des différences dans les récepteurs à la testostérone et à l'œstradiol, donc qui sont les deux hormones sexuelles importantes. Mais tout ça reste un peu spéculatif, même très spéculatif, parce que le nombre de cas disponibles est très faible et les études sont extrêmement compliquées.
Mais évidemment, en tout cas, l'influence des gènes et l'influence des hormones expliquent aussi beaucoup dans notre comportement et dans notre catégorie de mâle ou de femelle, d'homme ou de femme. C'est très important et je veux faire réagir sur le sujet Erwan Deves dans un instant parce qu'on parlait de nécessité de rendre très accessibles ces neurosciences. Vous le faites l'un et l'autre et je vous en remercie jusqu'à 11h et n'hésitez pas à échanger. Julie, on vous attend au Standard Europe 1.
Au 39-21, 50 centimes la minute.
Europe 1.
Nous avons choisi deux thèmes, deux angles pour vous parler du cerveau ce matin. En quoi les cerveaux des hommes sont-ils différents de ceux des femmes ? Et que se passe-t-il dans le cerveau de nos enfants ?
Et là, Erwan Deves rejoint les propos de Jacques Balthazar à l'instant. Ils sont spécialistes du cerveau, consultant en neurosciences Erwan Deves et neuro-endocrinologue pour Jacques Balthazar, qui publie « Quand le cerveau devient masculin ». Vous vouliez réagir, Erwan, aux propos de Monsieur Balthazar, qui nous parlait notamment de la manière dont les petits garçons étaient plus attirés par les jouets de garçons, les petites filles plus attirées par les jouets de petites filles, avec une dimension culturelle, mais une dimension aussi très biologique qu'il étudie.
Oui, ces questions en fait sont d'une complexité folle parce que c'est toujours une interaction dynamique entre de la génétique et de l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la naissance, une petite fille va avoir un mécanisme de reconnaissance faciale qui sera plus élaboré qu'un petit garçon. Ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire qu'elle va mieux reconnaître le visage de son papa ou de sa maman ou après des personnes qui sont autour.
Et ça, c'est prouvé scientifiquement ?
Alors ça, c'est prouvé, ça a des fondements hormonaux, notamment au niveau de la testostérone et l'ocytocine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette petite fille, 30 ans plus tard, quand elle sera dans l'univers professionnel, on s'est rendu compte, le MIT a fait plusieurs études là-dessus qui sont très intéressantes, on s'est rendu compte qu'en fait, une femme en position de leadership avait une lecture des états émotionnels complexes qui était plus fine. C'est-à-dire qu'elle arrivait à décrypter l'autre de façon plus fine. Et on se rend compte que la performance d'un groupe est directement corrélée à cela, aussi au respect, à la capacité de faire parler tous les membres autour de la table, etc. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit ce que le monde de demain, ce monde qui est d'une complexité folle, va d'une certaine façon être davantage sur mesure pour ces femmes leaders et managers. Et donc, c'est un message que je trouve formidablement optimiste.
Sur le terrain scientifique, on a donc le poids des gènes et des hormones. Je rappelle quelques petits chiffres. À un an, le poids du cerveau du bébé n'est pas si éloigné du poids du cerveau adulte, 1,3 kg, avec des milliards de neurones déjà en action. Vous reprécisez dans votre ouvrage, Erwan Deves, que les connexions se mettent ensuite en place très vite avec les structures du néocortex qui permettent à l'enfant tout petit déjà de réfléchir, d'analyser. J'imagine que vous êtes donc de ceux qui considèrent qu'il faut parler à l'enfant d'abord très tôt et avec de vrais mots, pas avec un langage de bébé.
Oui, alors parce qu'en fait, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que si on veut résumer à l'extrême, on a deux cerveaux, on a le cerveau des émotions, le cerveau de la raison. Là, je résume. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le cerveau des émotions, il est déjà relativement constitué, mature dès la naissance et actif, voire hyperactif. Alors que le cerveau de la raison, lui, il est en totale maturation. Il va avoir une première étape entre 0 et 5 ans de maturation et puis ensuite jusqu'à 20-25 ans, il va maturer au gré des différentes étapes du développement de l'enfant.
Donc les deux trouvent un équilibre, c'est ça, raison et émotion.
Oui, et c'est essentiel parce qu'en fait, on attend trop souvent de nos enfants des réactions d'adultes. Et quand le cerveau de la raison n'est pas mature, n'est pas constitué, il ne peut pas modérer, il ne peut pas essayer de modérer les ardeurs du cerveau émotionnel. Donc pour cela, pour aider l'enfant, au lieu de penser qu'il fait des caprices toutes les deux secondes, il faut parler à son cerveau de la raison. Donc, il faut parler avec des mots, tranquillement, de façon sereine, y compris quand ça ne va pas, surtout quand ça ne va pas. Et c'est le meilleur service que vous pouvez rendre à votre enfant et donc à vous-même.
De façon à faire maturer, justement, cette zone plus de la raison du cerveau, Jacques Balthazar, vous, vous rejoignez notre invité.
Cette maturation du cortex est évidemment retardée par rapport à la maturation de l'hypothalamus et de tout ce qui est basal dans le cerveau. C'est d'ailleurs une partie de l'explication de la crise de l'adolescence où la testostérone, de nouveau, augmentant chez les garçons, ça augmente leur pulsion agressive, leur pulsion de risque, etc. Alors que leur cerveau conscient, donc leur cerveau cortical, n'est pas encore totalement mature et donc peut mal gérer ces impulsions. Et c'est ce qui explique en partie pour les neuroscientifiques le problème de la crise d'adolescence.
Ah bah alors justement, cet âge de la vie, il est absolument fondamental et passionnant pour vous, neuroscientifiques, parce que la puberté, c'est une étape cruciale. Qu'est-ce qui se met en place dans le cerveau de cet ado à ce moment-là? C'est un emballement hormonal, Jacques Balthazar?
Il y a une réactivation du système qui connecte l'hypophyse au testicule chez le garçon, qui connecte l'hypophyse à l'ovaire chez la fille. Donc une augmentation de toutes les hormones sexuelles, donc androgène, testostérone chez le garçon, œstrogène chez la fille. Tout ça évidemment a des effets morphologiques qui sont bien connus, évidemment, apparition de la pilosité chez le garçon, développement des seins chez la fille, etc. Mais ça a aussi des effets comportementaux, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que s'établit la pulsion sexuelle qui va être différente dans les deux sexes également, évidemment.
Mais c'est un cataclysme hormonal sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Erwan De Ves, qu'il faut savoir aussi comprendre et encadrer pour bien entourer son adolescent.
Oui, alors c'est toujours la même chose. Il y a des fondements donc hormonaux, des fondements neurobiologiques, et puis à côté de ça, il y a aussi l'environnement. Que va faire un ado? Que souhaite faire un ado? Un ado, il n'a qu'une chose en tête, c'est son statut social au sein de son groupe. De groupes de copains, d'ados, pour avoir une position élevée. Mmh. Ce qui va donc l'amener à prendre un certain nombre de risques, à faire un peu le malin de temps en temps, pour impressionner la galerie, comme on dit. Ce moment-là, il est très important, il est assez particulier, et il faut le gérer. Et d'où l'importance pour les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, et surtout pour les parents, d'où l'importance de la compréhension de ces mécanismes. Parce que si on comprend tout cela, on fait beaucoup moins d'erreurs, et on apporte une réponse qui est beaucoup plus juste et adapté à l'adolescent qui est souvent un peu en souffrance, un peu en difficulté.
Oui, et ça revient à l'amour inconditionnel aussi que vous décrivez dans cet ouvrage à tout âge de la vie. On verra aussi la manière dont on est un peu mitridatisé aux hormones aujourd'hui quand on en consomme. Est-ce qu'on peut changer un peu notre métabolisme, notre mode de pensée tout simplement? On dit qu'il y a des impacts importants, oui, bon, Jacques Balthazar.
Ça ne se fait pas évidemment de façon délibérée chez la plupart des individus, mais on a par exemple l'exemple des sportifs, notamment aux États-Unis, les joueurs de football américain qui sont tous dopés à la testostérone ou aux androgènes. Bon, ces gens sont de toute évidence des gens d'une agressivité absolument extrême. Ouais. Et ils ont souvent des problèmes avec la justice d'ailleurs à ce niveau-là parce qu'ils sont bourrés d'androgènes qui sont des hormones qui stimulent l'agressivité. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus.
On parlera de deux âges aussi, de deux périodes intéressantes de la vie que vous mettez en lumière aussi dans votre ouvrage, Jacques Balthazar, juste après la pause, c'est-à-dire l'andropause et la ménopause. Je dis trop le mot pause, on me le reproche souvent. Je vais dire, on fait quoi? On fait un petit entracte, c'est ça, Julie?
Voilà,
c'est sur Europe 1. Bon. À tout de suite.
Il ne faut pas dire andropause, il faut dire
andro-entracte. Andro-entracte. À tout de suite.
Et on apprend que le mot pause est en fait. Parce qu'on nous a demandé de moins à l'utiliser.
Oui. Et donc on l'utilise en fait, plus là en 10 ans.
Non, mais c'est pas grave. On insiste, voilà. Et pour le cerveau, la pause. C'est vraiment un moment de relaxation ou au contraire?
Oui, alors il se passe beaucoup de choses quand on ne fait rien en apparence. Il y a beaucoup d'activation au niveau du cerveau. Et alors pour les enfants, il ne faut pas hésiter à proposer une petite dose d'ennui à ces enfants parce qu'on est toujours en train de les sursolliciter. On leur met une pression de dingue. On est dans une espèce de tyrannie narcissique du bonheur, etc. Et ce faisant, on leur met une pression en fait qui va être très difficile à supporter. Donc il faut de temps en temps lâcher la grappe, excusez-moi de l'expression, mais c'est tout à fait cela, il faut un peu lâcher la grappe à ces enfants et leur permettre de se construire et de se développer à leur rythme.
Oui, mais si ce sont eux qui nous hyper sollicitent, ce qui arrive souvent quand même, on leur dit, ennuie-toi 5 minutes dans ta chambre et tu reviens.
Il faut trouver des compromis les plus acceptables possibles entre les parents et les enfants. Et Dieu sait si c'est compliqué aujourd'hui, notamment par rapport aux écrans.
Oui, ben, bien sûr, on y reviendra dans un petit instant. Andropause, ménopause, deux moments importants dans la vie d'un homme et d'une femme, Jacques Balthazar, qui sont aussi au cœur de votre ouvrage. Il se trouve que le cerveau masculin va subir des modifications importantes que ne subira pas forcément le cerveau féminin,
oui,
ou pas même ampleur.
C'est de nouveau pas du tout ou rien. Bon, les deux cerveaux, évidemment, se modifient avec l'âge. Chez les femmes, il y a un changement hormonal qui est beaucoup plus abrupt, évidemment, qui se passe sur un intervalle de 2 ans, 3 ans, on va avoir une chute majeure des taux d'hormones reproductrices, donc l'œstradiol, progestérone. Chez l'homme, c'est quelque chose de beaucoup plus progressif et de variable individuellement. Donc il y a des hommes qui, à 80 ans, ont encore des taux de testostérone qui sont à peu près semblables à ce qu'ils avaient à 30 ans. D'autres qui ont décliné jusqu'à tomber à 10-15% de ce qu'ils étaient à la maturité sexuelle.
Ça veut dire que l'andropause peut changer le caractère d'un homme plus
Alors l'andropause va changer le caractère, va changer la morphologie. Bon, vous allez, tout le monde le sait, au niveau physique, vous allez commencer à faire des dépôts de graisse qui seront plus importants. Même si vous gardez une activité physique importante, si vous n'augmentez pas votre consommation alimentaire, vous allez commencer à déposer de la graisse et vous la déposerez à des endroits différents. Vous la déposerez sur les hanches chez la femme et sur le ventre chez l'homme. Mmh. C'est quelque chose que vous ne sauriez pas éviter, c'est une différence biologique. Vous allez aussi évidemment avoir toutes vos activités intellectuelles qui vont dans une certaine mesure décroître. Alors on perd de la mémoire, mais comme on utilise sa mémoire de façon beaucoup plus efficace, ben on donne l'illusion pendant pas mal de temps. Il y a des tas de choses qui vont se modifier. Les tailles de toute une série de structures du cerveau vont s'atrophier. Alors ça s'atrophie de façon différente chez l'homme et chez la femme, et les modifications sont peut-être un peu plus importantes chez l'homme. Mais je crois qu'il faudrait, on parle ici de différence entre les sexes de façon général, il faudrait tout de même bien préciser une fois que ces différences ne sont pas du tout ou rien, mais sont des différences avec recouvrement. Donc il y a des différences à la moyenne, mais avec recouvrement entre les sexes. Ce qui veut dire que ça n'est pas nécessairement un critère qui permet de discriminer un homme d'une femme, mais ça va amener des différences dans les distributions de structures du cerveau, d'activités cognitives, etc. Se recouvriront, mais qui aux extrêmes auront des différences importantes et donc qui auront une importance pour la société.
C'est-à-dire que le neuro-endocrinologue que vous êtes est plutôt favorable aux traitements hormonaux à ces périodes de la vie, andropause ou ménopause, pour le bien du cerveau ou pas ?
Alors, je serais plutôt favorable. Bon, il y a eu des études médicales. Bon, on a traité les femmes pendant très longtemps avec des œstrogènes après la ménopause. Mmh. Et puis, il y a eu une étude organisée par le département de la santé américaine, le NIH, qui a montré des effets délétères de ce traitement. Et donc, beaucoup de gynécologues ont arrêté de le donner. Maintenant, cette étude, on le sait maintenant, elle a 10-15 ans. Et on sait qu'elle souffrait de beaucoup de problèmes tout à fait majeurs. On avait commencé les traitements trop tardivement chez les femmes.
Ah,
on donnait des œstrogènes qui n'étaient pas très efficaces, etc. Donc, toutes ces femmes étaient en surpoids déjà.
Oui.
Et donc, on se rend compte que cette étude doit être mise entre parenthèses et que les effets bénéfiques des œstrogènes, qui étaient par ailleurs démontrés chez l'animal et dans des tas d'études cliniques, mais de plus petite envergure chez l'homme, sont bien présents et ça vaut la peine de donner des œstrogènes, mais sous conditions contrôlées, parce que les œstrogènes sont aussi des facteurs qui stimulent la croissance de cancer. Donc il faut faire attention, ça doit se faire de façon contrôlée.
C'est un grand débat, en tout cas, sur l'influence des hormones aussi sur notre cerveau, que vous connaissez bien, Erwan Deves.
Oui, pour apporter un message d'espoir, il faut bien retenir que le meilleur médicament pour notre cerveau, c'est nous. Et c'est en particulier l'apprentissage.
Et le cerveau, tout âge de la vie. Hein.
Oui, parce que le cerveau, il se détruit de la routine, si vous voulez. Il va se nourrir de la nouveauté. Donc, plus vous allez apprendre des choses différentes, des choses manuelles, intellectuelles, etc., et en particulier durant la deuxième partie de votre vie, plus vous allez renforcer votre cerveau. Donc, vous allez lutter contre ce vieillissement un petit peu naturel. Et on voit bien, par exemple, les acteurs de théâtre qui apprennent des textes jusqu'à 80, 90 ans et qui sont sur scène, on voit bien qu'ils ont une vitalité neuronale assez hors du commun. Donc il faut apprendre, il faut se mettre dans une posture d'apprenant et quitter nos habits de sachant, c'est absolument essentiel.
Oui, et vous le dites d'ailleurs, le cerveau aime le jeu, aime la pédagogie, c'est un muscle ludique, quoi.
Oui, le jeu, on en parle déjà beaucoup depuis quelques années, mais ce qui est intéressant,
c'est pour ça qu'on forme
l'apprentissage
des enfants très tôt sur le jeu, d'ailleurs.
Oui, et l'intérêt aujourd'hui, c'est que les neurosciences, en fait, expliquent pourquoi le jeu est aussi important dans l'apprentissage. Pour faire court, quand vous jouez, vous avez des décharges de dopamine qui vont vous inciter à faire, qui vont vous motiver, etc. Et ces petites décharges de dopamine vont particulièrement aller sur une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est vraiment la structure privilégiée pour l'apprentissage. Donc le jeu, il va permettre en fait de mettre votre hippocampe dans les meilleures conditions pour apprendre. Donc le jeu, c'est pas c'est pas le monde des bisounours, c'est un outil très efficace pour apprendre à 2 ans, à 10 ans, à 50 ans et à 80 ans.
Et qui plus est, lorsqu'on est atteint de maladies neurodégénératives, où là on maintient justement Jacques Balthazar un minimum de réactivité aussi du cerveau grâce à ces ateliers-jeux.
Il est très bien documenté maintenant que quand vous commencez à détecter les symptômes d'une maladie neurodégénérative, donc comme l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, cette maladie est en fait en route depuis 10 ou 20 ans. Mais elle ne devient perceptible pour le clinicien et pour la personne qui est concernée d'ailleurs qu'à partir du moment où vos performances cognitives passent en dessous d'un certain niveau. Et si vous démarrez d'un niveau très élevé, vous avez une réserve cognitive qui va vous permettre de tenir 10 ans de plus avant d'avoir des signes cliniques de votre dégénérescence de cerveau. Donc c'est extrêmement important de stimuler le cerveau, de surstimuler le cerveau par le jeu, mais aussi par toute forme d'apprentissage. Moi, je continue à travailler à temps plein, bien que je sois émérite depuis 5 ans, parce que ça, d'une part, ça m'amuse, mais d'autre part, je pense que ça me tient également en forme.
Vous rejoignez notre premier sujet sur le sens du travail. C'était
le sujet de la première. Plus tard dans la journée. Oui.
À tout de suite sur Europe 1. On fait réagir beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui vous permettront d'échanger avec nos auditeurs. Jacques Balthazar, Erwan Devez, à tout de suite pour parler du cerveau dans tous ses états de l'enfant à la personne vieillissante. À tout de suite.
Prenons-nous suffisamment soin de notre cerveau et de celui de nos enfants? Wendy Bouchard et ses invités.
Alors, plusieurs messages. D'abord un pour vous, Erwan Devez, vous qui publiez 24 heures dans le cerveau de votre enfant. Nous avons Dorothy qui nous écrit « Ma petite fille en ce moment a 20 mois, elle dort tout le temps. Est-ce qu'on appelle ça le pic de croissance? Et est-ce le moment où elle commence à grandir, ou elle continue à grandir? Est-ce que vous avez étudié ça, ces pics de sommeil?
Alors, c'est un peu compliqué de faire une consultation à distance, et surtout quand on n'est pas médecin. Donc, je ne vais pas m'aventurer précisément là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, durant cette période des 0-3 ans, en fait, il y a une vitalité synaptique, c'est-à-dire une connexion entre les neurones de fou. C'est cette période, en fait, où la vitalité synaptique sera la plus importante.
Donc, ça épuise les bébés, quoi, à un moment
donc,
donné.
Donc, effectivement, c'est assez épuisant. Et effectivement, on parlait du sommeil tout à l'heure, l'importance des siestes demi-journée est absolument fondamentale. Mmh. Et l'importance aussi de ne pas aller vers une sursollicitation si on sent que son bébé est fatigué. Puisqu'on le disait tout à l'heure, on a tous sur un plan anatomique plus ou moins le même cerveau, mais le fonctionnement de nos cerveaux à tous est un peu différent. Donc il faut aussi faire confiance au bon sens et à l'observation. Si le bébé est fatigué, c'est pas par hasard, et donc il faut se caler en fonction de ses états aussi physiologiques.
Monsieur Jacques Balthazar, neuro-endocrinologue. Ou qui aussi qui levait les yeux au ciel quand je disais les bébés étaient épuisés. Je dis ça de manière un peu triviale. Vous n'êtes pas d'accord?
Bon, je ne suis pas vraiment un expert dans le domaine, mais il est sûr. Je suis d'accord avec ce que dit mon collègue ici, qui est que évidemment les connexions du cerveau s'établissent pendant toute cette période.
Oui.
On est avec à peu près 10 fois plus de neurones qu'on en aura à l'âge adulte. On va donc perdre 90% de ces neurones et resteront vivants ceux qui fonctionneront et ceux qui établiront des connexions fonctionnelles. Donc il y a des croissances, des connexions nerveuses qui se font pendant les premières années de vie, et le plus tôt est le plus important. Et donc, il est sûr que ça génère une activité importante. Maintenant, est-ce que c'est la cause d'une fatigue? Je ne sais pas, je crois que l'espèce est relativement adaptée à ce développement du cerveau.
En tout cas, il faut de la récupération, on en revient à nos premiers propos
il faut
sur le sommeil.
Il faut du sommeil, ça c'est tout à fait clair.
Et les fameuses siestes réparatrices, qu'on ait 20 mois ou qu'on ait 75 ans. Jean-Seb Desmarais nous écrit, et c'est une réflexion pour vous Jacques Balthazar, toutes les discussions, débats autour du genre, dans l'éducation des enfants, ont-ils encore une raison d'être si nos cerveaux eux-mêmes font dès le départ cette distinction? Ce que vous mettez aussi un peu en avant biologiquement dans votre ouvrage, sur le cerveau masculin et le cerveau féminin.
Bon, il y a au départ des différences qui sont présentes, ces différences sont ténues, elles vont se renforcer par l'éducation différenciée, l'éducation genrée qu'on va donner aux petits-enfants. Alors, est-ce qu'on désire amplifier ou diminuer ces différences? C'est une question de société, c'est pas une question de neurosciences, évidemment. Je pense que il est bon, à mon sens, mais ça c'est un avis personnel, oui. À mon sens, il est bon que les hommes et les femmes soient différents dans une certaine mesure, parce que c'est une richesse pour la société. Maintenant, on ne doit pas non plus bloquer des vocations, et tout le monde doit avoir le droit qu'il soit homme ou femme, de faire ce qu'il veut de sa vie, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, évidemment. Et les recouvrements des courbes de distribution que je mentionnais antérieurement permettent de toute évidence aux deux sexes de réaliser tous les types de tâches qui sont présents dans notre société. Maintenant, ça va être avec des intérêts différents et des aptitudes différentes à la moyenne et aux extrêmes. Mais en moyenne, il y a un recouvrement tel qu'on peut permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut.
Erwan Devez est avec nous, auteur de 24 heures dans le cerveau de votre enfant, mais vous connaissez aussi comme consultant en neurosciences les capacités du cerveau aussi à l'âge adulte. Nous avons Laurent qui nous écrit est-ce qu'il faut laver le cerveau par le silence ou par exemple écouter de la musique, est-ce bon pour le cerveau ?
Ah, la musique est absolument exceptionnelle pour le cerveau. Elle permet beaucoup de choses, elle permet de diminuer le niveau de stress, le niveau de cortisol, elle permet une meilleure communication entre les deux hémisphères. Elle permet la musique est une des rares activités humaines en fait qui sollicite, qui active quasiment l'entièreté du cerveau. Donc il faut vivre en musique, c'est capital. C'est pas pour rien par exemple si dans les hôpitaux de prématurés, la musique est largement utilisée. C'est parce qu'elle a des effets déstressants qui sont très importants. Et autre donnée que l'on m'a donnée très récemment, un chercheur m'a expliqué ça, quand on introduit la musique dans l'univers hospitalier, on diminue environ par deux la consommation d'antidouleurs. Vous vous rendez compte ?
C'est pour ça aussi qu'on préconise aux mamans, aux femmes enceintes, d'écouter de la musique, d'avoir un environnement musical assez régulièrement pour infuser un peu...
Que le petit in utero va ressentir. Si la maman écoute Mozart au septième mois de grossesse, je peux vous dire que, et ça on a un certain nombre d'études qui le disent très clairement, le petit aura une sensibilité à la musique de Mozart.
Ça, donc n'hésitez pas. C'est l'imprégnation aussi du cerveau qui est
l'imprégnation prénatale, au son qui est très bien documentée maintenant d'ailleurs. Oui. Les enfants qui ont par exemple qui sont nés au Japon, qui sont de nationalité japonaise et ils sont génétiquement japonais, qui sont adoptés à la naissance par une personne qui vit dans l'hémisphère occidental, vont garder dans leur cerveau des traces du japonais qu'elles ont appris, qu'elles ont entendu pendant leur vie embryonnaire. Et donc, il y aura des activations cérébrales qui concerneront les zones du langage chez ces enfants à l'âge de 10 ans, quand on leur passera du japonais, alors que les enfants qui n'ont jamais entendu du japonais pendant leur petite enfance auront des activations du cerveau, mais qui ne sont pas dans les zones cérébrales qui concernent le langage. Donc, vous avez un reste de cette imprégnation au langage qui s'est fait prénatalement et qui reste pendant toute la vie de l'individu.
C'est incroyable, mais c'est pour ça aussi que le cerveau du bébé est si fragile et si vulnérable, et pourquoi la moindre des carences peut être dangereuse, et je ne parle pas de l'exposition à la cigarette, à l'alcool, pour le fœtus. Hein.
Absolument, et on néglige ou en tout cas on sous-estime cet aspect-là. Le cerveau des enfants est en construction. Oui. Et donc comme il est en construction, il est vulnérable, il est fragile. Pour prendre un exemple très concret, fumer un joint à 15 ans n'a absolument pas le même effet sur le plan neurobiologique que si on le fait à 40 ans. Donc il faut avoir conscience de ça, il faut expliquer ça à nos adolescents dans un discours de vérité. Il faut y aller, il faut expliquer les choses. On sait par exemple que la consommation de stupéfiants augmente le risque de survenue de maladies psychiatriques, psychologiques. C'est pas rien.
Notamment dans le cerveau en construction des jeunes ados, justement, dont vous disiez qu'ils ne sont pas aussi armés de la même manière qu'un cerveau adulte.
Ils ne sont pas du tout armés de la même façon. Et alors, il y a des pratiques, par exemple, parlons de l'alcool, par exemple. Si vous passez une soirée, vous êtes un ado, vous passez une soirée à boire de la bière sur 6, 7 heures, 8 heures, ça n'a pas du tout le même effet pour votre cerveau que si vous faites du binge drinking, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, vous ingérez 2 grammes ou 2,5 grammes d'alcool. Ça, c'est catastrophique pour le cerveau. Donc, il faut aussi au niveau de l'école, au niveau des associations, etc., il faut expliquer tout ça. Moi, je crois à la compréhension, je crois à la connaissance. Je suis intervenu très récemment devant des grands ados de 18-20 ans. On a eu un discours assez cash, assez trash parfois sur toutes ces pratiques. Et je peux vous dire qu'ils sont tout à fait capables d'entendre cela. Ils sont d'autant plus capables que quand on leur explique que s'ils continuent comme ça à fumer trop souvent, trop régulièrement, etc., un certain nombre de produits, ils développent le risque de survenue d'épisodes schizophréniques, par exemple, de bouffées délirantes. Je peux vous dire qu'il n'y avait plus un bruit dans la salle. Donc, il faut absolument avoir cet appétit vers la compréhension et la connaissance.
C'est le conférencier, notamment en neurosciences, qui vous parle. Erwan Devez, on se retrouve avec Jacques Balthazar dans un instant. Quand le cerveau devient masculin, notre cerveau nous détermine-t-il et comment? Vous êtes nombreux à réagir aux propos de Jacques Balthazar, qui a retardé de quelques heures son départ en Belgique. Et je vous remercie pour être avec nous sur Europe 1. A tout de suite. Belgique qui écoute cette radio, cette Maison Bleue. Hein. Au combien? Dites au combien.
Oui. C'est une des rares radios qui est encore en onde longue en Belgique.
Merci.
Donc
à tout de suite.
On va écouter une chanteuse qui s'est fait connaître sur sa propre chaîne YouTube. Elle est née et a grandi aux Philippines. Elle s'appelle Renée Dominique.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know. Somewhere only we know.
Somewhere Only We Know, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une reprise du groupe Keen. Et ça parle à notre invité qui chantait cette chanson à son petit
Erwan
garçon.
On parle de l'imprégnation du cerveau. Vous la chantez à quel âge, vous?
En fait, on l'a chantée ensemble, donc je suis tout d'un coup très ému. J'en profite pour faire un gros bisou à mes deux enfants.
Voilà, il n'y a pas de hasard. Il publie Erwan Deves, 24 heures dans le cerveau de votre enfant. Jacques Balthazar, pour le tour de la question, encore quelques instants avec nous. Publiquant, le cerveau devient masculin. Des cerveaux d'hommes, des cerveaux de femmes, que les gènes, que les hormones, que la culture et la société explique aussi. Vous nous dites, par exemple, vous expliquez en partie, mais je résume votre livre, pourquoi il y a plus d'autistes et de bègues chez les hommes. Ce sont des choses que nous avons mis, que les chercheurs ont mis en évidence et que vous expliquez aussi biologiquement, Jacques Balthazar.
Oui, alors il y a une grosse différence dans la distribution de toutes les maladies qui concernent le cerveau entre hommes et femmes. Certaines concernent plus les femmes. C'est le cas de la dépression, mais c'est le cas aussi de l'Alzheimer, par exemple, pour prendre deux exemples. Et il y a d'autres qui concernent plus les hommes, c'est le cas de l'autisme, des syndromes Gilles de la Tourette, etc. Bon, il y a toutes les maladies, en fait, sont sexuellement différenciées. Alors, le bégaiement est masculin également. Alors, on n'a pas toujours l'explication finale au niveau fonctionnel. Pour le bégaiement, il y a des pistes qui suggèrent que ça serait lié, en fait, aux hormones, de nouveau à la testostérone.
Oui.
Pour le syndrome Gilles de la...
C'est-à-dire, pardon, avec des dérèglements hormonaux,
des différences dans l'imprégnation hormonale pendant la vie embryonnaire ou des dérèglements. On n'a pas l'explication
finale.
Et qui sont un peu irréversibles. Sauf que par apprentissage, de nouveau, vous pouvez vaincre le bégaiement, évidemment. L'Alzheimer, il y a de toute évidence une base génétique qui est présente. Et tout ça explique évidemment qu'on a besoin d'une médecine qui est sexuellement différenciée,
qui est genrée. Ouais. Médecine genrée, on en parle peu en France. On a l'habitude de d'établir des protocoles similaires à l'homme ou à la femme.
Oui, ben, dans le monde entier, d'ailleurs, on a classiquement fait toute la recherche fondamentale sur des rats et des souris mâles, et on a fait tous les essais cliniques sur les hommes. Alors, il y avait des raisons pratiques qui sont que si vous faites un essai clinique sur une femme, vous n'êtes jamais totalement sûr qu'elle n'est pas enceinte dans ses premiers mois de grossesse, ouais. Et donc il y a un risque potentiel associé. Mais on est en train de changer... de façon tout à fait claire d'avis, le département de la santé américaine oblige maintenant tout essai clinique à se faire sur les deux sexes.
D'accord.
Et toute recherche fondamentale, tout projet de recherche financé doit l'être sur les deux sexes, sauf si vous avez une bonne raison pour expliquer que vous n'étudiez pas
oui.
un des deux, évidemment.
Et pour vous, pour ces maladies, elles devraient recevoir des soins spécifiques et différenciés selon qu'on est homme ou selon qu'on est femme.
Absolument.
Le
cerveau fonctionne différemment, le métabolisme est différent, donc les médicaments vont être absorbés et éliminés de façon différente. Il a d'ailleurs été démontré qu'entre 1987 et 2000, je crois, 8 des 10 médicaments qui ont été retirés du marché pour effets secondaires étaient des médicaments qui avaient des effets secondaires chez les femmes spécifiquement. Mmh. Vous avez d'ailleurs en France une avocate de cette cause qui s'est beaucoup manifestée, qui s'appelle Claudine Junien, qui est professeure de génétique à Paris et qui se bat depuis quelques années maintenant pour la médecine sexuellement différenciée.
Ça ouvre encore une dimension passionnante pour la science, la médecine genrée. On a un petit message de Bernard, il a 74 ans, et c'est pour vous, Erwan Devez, vous qui publiez 24 heures dans le cerveau de votre enfant. Mais pas que. Il demande pour les vieux comme moi comment activer le cerveau et le dynamiser au quotidien. Alors vous avez donné quelques trucs et astuces, mais quand on n'est pas fan de sudoku, je dis n'importe quoi, mais d'exercices un petit peu concrets. Comment on peut faire ça dans la vie de tous les jours? Quand on prend sa moto, quand on va au marché
Oui, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on a le luxe de choisir ce qui nous plaît. Donc dans notre mode de vie, je vais essayer de passer très rapidement sur un certain nombre de points clés. Le sport, l'activité physique, absolument essentielle sur le cerveau, sur la neurogénèse, la création de nouveaux neurones et sur un certain nombre de questions neurobiologiques. Le fait de ne jamais tomber dans la routine, de ne jamais faire les mêmes choses au même moment, au même endroit. Donc ça, c'est absolument essentiel. D'apprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre des choses nouvelles et de varier les apprentissages. On apprend le tango et ensuite, après, on va apprendre une nouvelle langue étrangère. Ça va faire travailler différentes parties du cerveau. Le fait aussi très important, on ne néglige ça, et particulièrement en France, d'avoir un biais positif sur les choses. Quand vous avez un biais positif sur les choses, vous reconfigurez votre cerveau. Donc encore une fois, on n'est pas là dans les incantations un peu lunatiques, on est dans la neuroscience. Donc le fait d'avoir un biais positif sur les choses et d'essayer d'avoir une vision optimiste des choses, c'est très important à tout âge et en particulier dans la deuxième partie de sa vie. Donc voilà, ces petites choses. Alors, il n'y a pas une méthode miracle, mais ces petites choses mises une à une vous permettent d'avoir un cerveau en bien meilleure santé.
La positive attitude, elle est biologiquement prouvée.
Oui, absolument. Et il est très bien démontré d'ailleurs que le stress chronique a des effets délétères sur le cerveau absolument ouais. dramatiques et notamment inhibe la neurogénèse, donc la restructuration de la formation de nouveaux neurones et augmente la mort cellulaire. Donc le stress chronique détruit le cerveau essentiellement, et avoir une attitude positive vis-à-vis des choses va évidemment contrer ces effets délétères.
Vous avez noté aussi dans cet ouvrage que les cerveaux masculins sont plus gros, mais que les cerveaux féminins développent davantage d'empathie. Vous pouvez juste nous expliquer pourquoi
ça a été mentionné par mon collègue antérieurement.
Déjà,
les femmes sont plus douées pour lire sur le visage d'autrui les expressions et pour s'y intéresser. Les hommes sont plus doués pour systématiser l'environnement, tirer des règles à partir de ce qui se passe dans l'environnement.
Oui, observatrices
des personnes. Les hommes seront plus observateurs des choses, essentiellement.
Oui.
Et ça, c'est très bien démontré. Il y a un chercheur à Cambridge qui s'appelle Simon Baron-Cohen qui travaille là-dessus depuis une vingtaine d'années et qui montre que ces différences sont présentes, qu'elles sont présentes dès le premier jour de vie, ça a été dit, et qu'elles sont corrélées au taux de testostérone prénatal. Donc tout ça est très, très clairement démontré et ça explique évidemment certaines différences d'attitude dans la vie et certaines différences de qualité managériale, etc., qu'auront les femmes par rapport aux hommes, avantages de leur côté d'ailleurs, etc.
On vote pour des conférences avec vous, Jacques Balthazar et Erwan Devez, dans les écoles, dans les entreprises, parce que... pour le sens de la solidarité, de l'entraide aussi, et pour faire de bonnes émissions, ça peut jouer. Moi, j'ai aucun souci et j'ai une équipe géniale. Je les salue, Manuel Calma, Charlotte Arrigoni, Naïma Benchemann, Jean-François Bussière, réalisation, et ma chère Julie, un plaisir de vous retrouver au quotidien. Merci beaucoup. 24 heures dans le cerveau de votre enfant chez Larousse pour Erwan Devez, et Quand le cerveau devient masculin de Jacques Balthazar aux éditions Humaine Science. Merci à vous, messieurs, et bon retour en Belgique. Salut nos amis belges, Jacques. Merci.